100 jours, 2 médailles pour la Suisse à Val d'Isère. Les jeunes skieuses Nadia Kammer et Lara Gout sont en argent et en bronze. Retour sur cette belle descente avec Alain Thévaud. Il y a toujours et encore 2 présidents en Côte d'Ivoire. Et alors même que les pressions internationales se font de plus en plus fortes sur Laurent Gbagbo pour qu'il démissionne, ses partisans se disent aujourd'hui prêts à déloger son rival Alassane Ouattara par la force même. Gaëtan Vanet a passé une soirée avec ses jeunes patriotes. Son reportage à découvrir dans quelques instants. C'est Ada Mara qui reçoit cette année le prestigieux prix Champignac qui récompense la plus belle perle oratoire parue ou diffusée dans les médias romans. Mais qu'a donc déclaré la conseillère nationale socialiste vaudoise pour être ainsi honorée? Vous le saurez dans ce journal. Et pour l'émission 15 minutes direction le Niger, un pays où les famines succèdent aux famines et où Médecins sans frontières suisses tente une approche différente pour venir au secours de cette population affaiblie. Prévenir pour mieux nourrir, c'est le reportage que vous propose Nicolas Vultier et Sylvain Michel. Du soleil, encore du soleil au programme de cet après-midi. Il fera entre moins 4 et moins 1 degré en plaine, moins 13 à 2000 mètres. Demain, retour prévu des nuages. Les prévisions complètes d'Éric Fauchère juste avant 13h. Et tout de suite, une information routière.
Infotrafic RSR.
Des temps d'attente d'une demi-heure sont enregistrés sur la ligne de ferroutage du Lötschberg, tant en gare de Gantkandersteg que de Goppenstein. Des problèmes techniques survenus dans le tunnel sont à l'origine de ces retards. Et c'est donc un double podium pour les skieuses helvétiques à Val d'Isère. Nadia Kammer et Lara Gout ont donc brillé dans cette descente dames comptant pour la Coupe du Monde. Descente gagnée par l'américaine Lindsey Vonn à l'Intevo.
Oui, le ski suisse féminin de retour au premier plan. La troisième place de Dominique Giesing à l'Écluse demandait confirmation. Eh bien, la confirmation est tombée ce matin à Val d'Isère puisque Nadia Kammer et Lara Gout sont montées sur le podium en se classant deuxième et troisième à 68 et 80 centièmes de la reine du ski féminin, l'américaine Lindsey Vonn. En terminant deuxième, la Suissoise Nadia Kammer a égalé sa meilleure performance et a décroché le troisième podium de sa carrière. Quant à Lara Gout, la Tessinoise a montré qu'il faudra à nouveau compter avec elle. L'ambiance, on le sait, n'est pas au beau fixe avec l'entraîneur-chef Mauro Pini. Lara Gout a été suspendue pour les épreuves techniques de Semmering en Autriche les 28 et 29 décembre prochains, mais elle a répondu sur la piste de Val d'Isère aux dirigeants de la Fédération Suisse de Ski en se classant troisième de la descente.
Merci à l'interview direct de Val d'Isère. Le dialogue est rompu entre la conseillère d'État neuchâteloise Gisèle Horry et le comité d'initiative Un enfant, une place. C'est le journal L'Express qui révèle ce matin que le comité a adressé une lettre à la chef du département de la santé et des affaires sociales pour lui dire que ses propositions étaient insuffisantes. Gisèle Horry cherche à convaincre que le comité de retirer son initiative et de se ranger derrière son contre-projet qui sera soumis à votation au début de l'année prochaine. Et faute d'accord, en février ou en mars prochain, les neuchâtelois auront donc à choisir entre la nouvelle loi sur l'accueil des enfants acceptée par le Grand Conseil en septembre et l'initiative populaire déposée, elle, en 2007, Virginie Pilot.
Oui, la nouvelle loi cantonale prévoit une hausse progressive du nombre de places dans les crèches et les structures d'accueil parascolaire. D'ici à 2014, 2 enfants sur 3 jusqu'à 4 ans et 1 enfant sur 3 pour les 4 à 12 ans devront être accueillis 2 jours et demi en moyenne par semaine. Cette amélioration de l'offre sera financée par les communes, les cantons et les entreprises. C'est ça qui est nouveau. Les entreprises qui verseront 10 millions de francs par année. En échange, elles bénéficieront d'allègements fiscaux prévus par la nouvelle loi sur l'imposition des personnes morales. Tout faux, répondent les opposants à ce projet. Primo, la taille des locaux et le nombre d'adultes prévus par la nouvelle loi pour l'accueil des enfants sont insuffisants. La formation et les conditions de travail du personnel laissent à désirer. Secondo, le Conseil d'État et le Grand Conseil n'auraient pas dû lier les deux lois. C'est une forme de chantage. Car si on attaque la loi sur la fiscalité des entreprises, eh bien on touche du même coup à la loi sur l'accueil de la petite enfance. Et c'est bien ce qui se produit actuellement. Un référendum muni de 5000 signatures a été déposé contre la réforme fiscale le 9 décembre. Si les Neuchâtelois refusent ce texte, ils refuseront en même temps la loi sur l'accueil de jour. La voilà donc doublement menacée, alors même que le canton manque cruellement de places de garderie.
En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo subit une pression chaque jour plus forte de la part de la communauté internationale pour qu'il cède le pouvoir à Alassane Ouattara. Mais dans le pays, les partisans du président Gbagbo appellent aujourd'hui à combattre le camp Ouattara. Ainsi, les jeunes patriotes, des fidèles soutiens à Gbagbo, se disent prêts à déloger Ouattara par la force, même sans armes et avec les mains si on le leur demande. Des militants qui organisent d'ailleurs un meeting cet après-midi. Notre envoyé spécial à Abidjan, Gaëtan Vanet, est allé à leur rencontre hier soir dans leur quartier de Yopougon. Son reportage.
J'ai même la cassette où ils ont égorgé le jeune homme là.
Et ça là. Nous sommes à Yopougon. Yopougon, Sikoji, Canal 7. Moi, c'est Pierre-Ulma Stéphane. Je suis le président de la Jeunesse Unie pour la paix en Côte d'Ivoire. Pourquoi je soutiens les idéologies de Charles Blé Goudé? Charles Blé Goudé demeure aujourd'hui un leader. Et c'est le leader du congrès panafricain des jeunes patriotes.
À Yopougon, les gens soutiennent Laurent Gbagbo. Les jeunesses patriotiques, ce sont ces mouvements de jeunes que tous craignent voir prendre la rue. Ce pourrait être l'embrasement. En général, comme il l'appelle, est le désormais ministre Charles Blé Goudé. Stéphane, dont les parents tiennent un maquis, un café, a des mots violents contre Ouattara, mais il reste contre une résolution violente de la crise. Ce n'est pas la position générale dans le quartier. Avec la crise, tous les soirs se tiennent dans ce quartier et dans d'autres des rassemblements, des agoras.
Chers amis, chers camarades patriotes, chers camarades patriotes,
tous ceux-là sont venus écouter. Tous ceux-là sont venus écouter.
C'est fini. Parce que la communauté internationale a compris que Ouattara n'est rien et qu'il ne peut pas appeler les Ivoiriens dans la rue. Et ils vont venir chasser Laurent Gbagbo du pouvoir.
Si le discours anti-Ouattara reste relativement modéré en début de soirée, plus tard, c'est différent.
On est prêts pour Gbagbo ! On est prêts pour Gbagbo ! Alors, les personnes ont été touchées.
Nous sommes prêts, sans âme. Sans âme. Avec les mains, avec les mains. Sans âme, avec les mains, on peut les déloger. Je vous jure qu'actuellement, c'est parce qu'on n'a pas encore le mot d'ordre. Je pourrais son calme, chacun est dans ses jeux. Vous avez vu les gars jouer au football, les gars ne s'occupent pas. Mais il suffit qu'on on siffle, c'est fini. C'est fini. Les Ivoiriens se lèvent, c'est fini.
Gaëtan Vanet, Radio Suisse Romande, Abidjan.
Et la situation en Côte d'Ivoire se durcit également sur le front médiatique. Plusieurs quotidiens favorables à Alassane Ouattara ont été interdits de parution hier par le régime de Laurent Gbagbo. C'est ce qu'a dénoncé Reporters sans frontières, qui dit sa très vive inquiétude pour la presse ivoirienne. À Paris ont lieu aujourd'hui les Assises internationales sur l'islamisation de nos pays. Une manifestation sous très haute tension, organisée par une vingtaine d'associations, dont le Bloc Identitaire, classé par certains à l'extrême droite. Parmi les invités de ces Assises, le Suisse, Oscar Freisinger. Mehmet Gültaş, vous êtes sur place.
Oui, Oscar Freisinger qui a fait tout à l'heure, peu avant midi, une entrée très remarquée, entourée de caméramans et de photographes. Oscar a scandé la foule debout. Présenté comme l'animateur vedette de la votation suisse contre les minarets, il doit prononcer cet après-midi un discours sur l'incompatibilité entre la démocratie et les lois islamiques. Plusieurs autres orateurs venus de Belgique, des Pays-Bas, du Danemark, du Royaume-Uni, d'Allemagne et d'Autriche se sont exprimés ou vont le faire pour exposer chacun des exemples de ce qu'ils considèrent comme étant l'islamisation de leur société. Aucune distinction n'est faite dans les discours entre les courants islamistes radicaux et les communautés musulmanes. Autant dire que les discours ont des relents clairement islamistes. Plusieurs organisations de gauche et antiracistes ont appelé à des manifestations contre ce qu'ils appellent les assises de la haine. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, avait demandé l'interdiction de la réunion, mais le préfet a préféré l'autoriser avec une mise en garde aux organisateurs. Des fonctionnaires de police assistent dans la salle et sont chargés de rapporter tout trouble à l'ordre public ou tout élément justifiant une transmission au procureur de la République. Autant dire que ce qui devait être une réunion quasi confidentielle a bénéficié d'une publicité inespérée.
Des assises qui se poursuivent jusqu'à ce soir à Paris, en direct de Paris. Mehmet Gültaş, merci. La sixième édition de l'action 1 million d'étoiles organisée par Caritas aura lieu cet après-midi en Suisse. Dès 16h, plus de 100 000 bougies éclaireront de nombreux bâtiments et monuments historiques dans 200 communes du pays. L'occasion pour l'organisation Caritas de lancer un appel à la solidarité ainsi qu'au respect mutuel juste avant les fêtes de Noël. Grégoire Prat, porte-parole de Caritas Suisse.
Alors l'action 1 million d'étoiles, c'est vraiment une action symbolique pour montrer que dans notre pays, ces valeurs ont encore un sens, surtout dans le contexte politique actuel.
Comment vous jugez justement la solidarité en Suisse? Est-ce que finalement, on manquerait un petit peu de solidarité entre Suisses?
C'est une Suisse actuellement qui est en train de se refermer un peu sur elle-même, par peur de l'étranger, par peur de la pauvreté, de la crise. Nous aimerions une Suisse qui soit plus ouverte, plus accueillante, où chacun pense encore à son prochain, à son voisin, à celui qui est à côté de lui, qui est un peu en situation difficile ou même qui peut être malade. Donc c'est vraiment ce signe-là que l'action 1 million d'étoiles veut montrer.
Grégoire Prat avec Karine Suigny et toutes les informations sur cette action sont disponibles sur le site internet caritas.ch. Du flamenco maintenant avec une création pour les 10 ans de la troupe professionnelle lausannoise Passion du Sud. La compagnie a fait appel aux meilleurs danseurs du moment pour proposer à Crissier Soniquette dans la pure tradition gitane. Pierre-Étienne Joie.
9 tableaux et 7 artistes, chant, danse et guitare dans un monde résolument andalou. Et surtout le compas, le pas du flamenco, le rythme. D'ailleurs Sonny Kete, c'est le terme idoine, hommage à cette composante rythmique essentielle au flamenco des origines. Dina Campana, chorégraphe et fondatrice de Passion du Sud.
Sonny Kete veut dire justement ça. Les gitans utilisent ce terme pour dire le compas, le rythme de la musique. Donc nous on se base sur le rythme pour créer et pour enseigner aussi.
Dina Campana est fille d'immigrants andalous d'origine espagnole, donc elle a grandi à Lausanne, mais ses racines sont fortes. Elle retourne aux sources, s'imprègne des sons, des gestes du flamenco en Andalousie, puis prend des cours à Barcelone, des formations à Séville ou Cordoue. C'est l'enseignement ensuite en Suisse avec cette volonté de rester toujours proche de la tradition, aux sources du flamenco, alors que, comme le tango, le genre évolue.
En ce moment, il y a quand même pas mal de mélanges. Hein. On essaie toujours de fusionner un petit peu avec des différentes danses, des différentes, par exemple avec la danse orientale, avec la danse andou, avec le jazz. Nous, notre style qu'on fait, c'est plutôt, on se maintient proche à la tradition et à la pureté du flamenco, comme on l'a toujours connu.
Sonny Kete Flamenco par Passion du Sud, c'est ce soir, samedi 18 à la salle de la Chiesa à Crissier, à 19h30. Et comme chaque année, le célèbre prix Champignac est remis à celui ou celle qui aura commis la plus belle perle oratoire. Beaucoup d'élus, peu d'appelés. Yves Terrani, vous avez suivi cette cérémonie à la librairie Basta de Lausanne. Qui a remporté la fameuse statuette remise par le jury de la distinction, c'est...
Alors, c'est la lausannoise conseillère nationale vaudoise Adamara qui obtient le prix Champignac d'or pour plusieurs phrases, comme par exemple « Je n'ai jamais été partisane de la fessée ou du martinet comme principe pédagogique, ce loi doit rester un choix de ces femmes ». C'était dans 24 heures. Ou encore sur notre antenne, de la même Adamara, de tous côtés, des voix s'enflamment pour calmer le jeu. Porte-parole de l'aéroport de Genève, l'ancien journaliste de la RSR, Bertrand Stempfli, obtient lui le champignac d'argent pour sa déclaration définitive. Yves Munier a des arguments qui sont tellement faux que même l'inverse n'est pas vrai. Ont aussi été remarqués pour leur performance oratoire, la journaliste de la TSR, Manuel Pernoux, qui avait affirmé que le gouvernement ivoirien n'est pas aveugle, ou encore le journaliste de l'Express, Patrick Tourouvani, ainsi que l'expert en sécurité, Jacques Beau. La cérémonie de remise de récompense vient de s'achever. Un petit rappel peut-être, hein, le prix du maire de Champignac récompense les hommes ou les femmes politiques et les personnalités locales qui se sont particulièrement distinguées au cours de l'année pour leur excellence dans l'art oratoire et leur maîtrise de la rhétorique classique.
Une belle cuvée, donc merci Yves Terrani.
15 minutes. Le magazine de reportage de la rédaction.
Et c'est au Niger que nous emmène l'émission 15 minutes aujourd'hui. Un pays plusieurs fois touché ces dernières années par des crises alimentaires d'une extrême gravité. Dans le sud du pays, la section suisse de Médecins Sans Frontières a mis en place ce qu'elle appelle l'approche communautaire. Il s'agit de travailler dans les campagnes, dans les villages, au plus près des populations, pour accentuer le dépistage des enfants malnutris, limiter la mortalité et le nombre des arrivées de cas très graves ou désespérés dans les centres de santé. Niger, prévenir pour mieux nourrir, c'est un reportage de Nicolas Vultier, réalisation Sylvain Michel.
On a reçu maintenant 17 ou 20 enfants à la fois. Il y a un peu de tous, mais la majorité est encore dans la première phase de réhabilitation nutritionnelle. Et, il faut les admettre, il faut les mettre dans un hôpital et on ne peut pas les traiter ambulatoire. Il y a quelques-uns qui sont déjà dans les soins intensifs parce qu'ils sont venus dans un état pas bien. Moi, je suis Verena Moreno, pédiatre de Berne, qui travaille ici avec Médecins Sans Frontières depuis mi-juin. Dans un CRENI, c'est un centre de réhabilitation nutritionnelle intensif. Tout bref, un hôpital pour des enfants mal nourris avec des pathologies associées.
75. Donc le poids c'est 6, hein. La taille c'est 75. Donc, elle a 24 mois. Ça c'est le MIAC, c'est le périmètre bractère pour mesurer les enfants. Donc il y a le vert, il y a l'orange, donc il y a le rouge, c'est vert. Donc ça c'est vert, ça c'est risque.
Donc c'est un bracelet que vous avez mis autour du bras de l'enfant,
le bras gauche,
avec des couleurs, le bras gauche, et on tombe dans le rouge, donc c'est vraiment donc malnutrition
c'est
sévère.
Malnutrition sévère, oui. Donc directement, on le prend directement dans le programme. Je m'appelle Maman Sani.
Et vous êtes ?
Aide infirmier.
Il y a deux différents types de mal nourris. Il y a le type marasmique, où on voit de loin qu'il est mal nourri parce qu'il est maigre. La peau est emplie partout. Et l'enfant est encore assez alerte. Souvent, il est affamé ou il a faim, il mange. Et après, il a un autre type, c'est le kwashiorkor. C'est un enfant qui est plutôt, on peut dire, gonflé. Il est plein d'œdèmes. Il a des jambes, des pieds tuméfiés, grosses. Il y a une peau qui, souvent, est un peu décolorée. Il y a des cheveux décolorés, des cheveux rougeâtres. Ce sont des enfants qui leur manquent pas seulement toute la nourriture, sinon ils ont aussi une très basse protéinémie. Alors la protéine dans le sang est très basse et ils sont très très difficiles à traiter.
Mais les enfants, quand ils arrivent ici, ils sont là pour combien de temps ?
Entre 2 et 3 semaines.
Et avec un taux de mortalité qui affecte combien d'enfants ?
Autour de 6 à 7%.
Combien d'enfants vous recevez en moyenne par jour ?
Sur l'année, je ne sais pas, mais au moment, la semaine passée, c'était 30 à 40, mais avant, c'était jusqu'à 40 à 50 dans le pic. Et dans les temps normaux, c'est 10 à 20. Le tam-tam, c'est tous les mercredis soirs, ils viennent quelques musiciens pour jouer le tam-tam, que les mamans qui sont ici, des fois plus que 2 semaines, aient un peu une animation qu'ils peuvent danser, qu'ils peuvent se réjouir, et un peu moins sérieux que pendant toute la journée.
Madame, vous pouvez me dire votre enfant, il a quel âge ?
Presque 2 ans.
Pourquoi vous êtes venue ici ?
Elle a amené son enfant parce qu'il est malnutri.
Qu'est-ce qu'elle leur donne habituellement ? Qu'est-ce que vous leur donnez à vos enfants ?
La pâte de thon et la boule. Parce que c'est pratiquement l'aliment le plus consommé dans les campagnes.
La boule,
oui.
C'est quoi la boule ?
C'est une bouillie faite de, je crois, farine de mil. Oui. Du lait et de l'eau et peut-être un peu de sucre.
Là, ça veut dire qu'il est bien parti, il va bientôt sortir, il va bien ?
Non, pas encore, il lui manque encore 1 kilo.
2 ans, il fait quel poids ?
Il a 6,5 kilos.
Et normalement ?
À peu près 10 à 12.
Maintenant, nous sommes à la phase 2, c'est la phase terminale du créni. Après un séjour, normalement c'est de 7 à 10 jours. Et une fois que les enfants sont guéris, l'enfant peut regagner chez lui. Pour le moment, en phase 2, nous avons 76 enfants.
Omera Bukari.
Regarde ce dossier-là. Là, vous avez le possible. Normalement, si tout marche bien, la femme, là, dans 2 jours, elle peut regagner chez elle. Parce que c'est 2 pesées consécutives, une fois regagné le possible.
Madame Saoudé Issa, vous vous souvenez quand vous êtes arrivée ici au Créni, c'était il y a combien de temps ?
9 jours.
Là, vous allez quitter le Créni, vous retournerez dans votre village. Est-ce qu'il y aura assez à manger pour nourrir votre enfant ?
Ils
ont des pâtes alimentaires telles que le macaroni, ils ont aussi le riz, ils ont le haricot, aussi ils ont les céréales, les céréales communes, comme le miel et le sorgho. Ils ont été sensibilisés depuis le village que quand l'enfant est malade, on doit l'amener dans un centre de santé pour sa prise en charge.
Donc là, on est sur une phase de départ avec une mise en route progressive à l'africaine de ces distributions. Les gens sont en train de récupérer le matériel qui va leur être mis à disposition pour les magasins. On a également des équipes de recherche qui partent et d'enquête qui partent sur le terrain. Donc c'est pour ça que vous avez autant d'activités ce matin autour de vous, avec l'équivalent de presque 45 véhicules, 5-6 personnes par véhicule. Donc ça fait quand même relativement assez de monde ce matin. C'est très animé. Dès 7h le matin, c'est agréable. Moi, c'est Alan, je travaille en tant que logisticien sur la distribution pour Médecins Sans Frontières Suisse. Moi, je reste à l'extérieur assis sur mon capot, je prends un peu de hauteur, ça les gens savent où me trouver et je sais où les trouver aussi. Et je gère comme ça très rapidement les problèmes et ça va de mieux en mieux.
Non, c'est pas ça qui est. S'il y a quelque chose qui est fragile dedans. Ah oh.
Oui.
Vous allez où, monsieur?
On va à Kona.
C'est loin d'ici?
Et à peu près dans les 54 km comme ça.
Et vous allez faire quoi?
Moi, j'irai à Hamdara faire distribution. SPP.
C'est quoi ça?
Supplémentaire plein peanuts.
Ok, je confirme, je quitte Bravo Alpha de Zulindia, direction Hôtel Alpha, toi.
Très bien, tu comprends Hôtel Alpha.
Affirmatif, toi.
Salam alaikum.
Les gars, ils sont d'accord.
Salam alaikum.
Chef de glace.
Salam alaikum.
C'est Nicolas.
Monsieur Bokari, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites là?
Maintenant, je travaille pour les petits enfants là. Ouais, ouais. Je suis en jeune de dépistage. Ça, je mesure les miaques. Ouais, ouais.
Là, vous avez mis l'enfant à côté d'un bâton.
Je mesure sa taille. C'est 132. Couleur jaune. Il est en malnutrition. Ouais, ouais. Il est en malnutrition.
Mais c'est pas une malnutrition sévère.
Elle n'est pas très sévère. Elle n'est pas sévère.
Tu as noté le nom du village?
C'est quel village ici?
Ici, c'est Dagalmou.
Ça, c'est les fruits de l'approche communautaire pour déjà utiliser les compétences locales. Je m'appelle Moutari Adam Hamza, je suis superviseur paramédical. Donc voilà, c'est la preuve aujourd'hui et on va gagner beaucoup plus de confiance de la communauté parce qu'il s'agit de même de quelqu'un qui émane de cette communauté et qui va travailler pour elle. Donc la considération, l'impact serait quand même beaucoup plus grand que quand c'est des personnes étrangères qui viennent. Et pour lui aussi, c'est de l'humanitaire parce que là, il gagne quelque chose pour encore réaliser, pour nourrir ses ambitions.
Ouais. Vous, monsieur, vous êtes le chef de ce village. Vous vous appelez comment? Vous avez quel âge, vous, monsieur?
Il a à peu près 80
ans.
C'est comment la situation dans votre village?
En fait, il reconnaît que la pluie a été bonne, mais c'est qu'il y a eu l'avancement du désert, en fait. L'ensablement et les puits sont remblés par le vent qui pousse les sables. Donc, ils n'ont pratiquement aucune infrastructure adéquate pour l'eau potable.
Et vous avez passé quelques années très difficiles avec la sécheresse en 2005-2007.
Il dit en 2005 c'était vraiment la catastrophe parce que les terres n'ont pas donné et la pluie elle n'était pas au rendez-vous et du coup il n'y avait pas eu production et même la culture de contre-saison aussi n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas de pluie. Donc c'était le calvaire quoi.
Vous avez perdu beaucoup de troupeaux, beaucoup de bêtes pendant les sécheresses.
Il dit qu'il
y a eu perte de vie, rien que pour cette localité, ce village, il y a eu, on peut compter à peu près 300 têtes.
Et aujourd'hui, il en reste combien des têtes de bétail?
Il peut avoir une trentaine comme ça. Ils ont des difficultés pour l'élevage. En fait, la stratégie décentralisée, c'est qu'on a pris des agents locaux qu'on avait appelés les agents de dépistage. Ils ont le matériel et ils ont acquis une compétence nécessaire pour screener les enfants, pour éviter au moment de faire des déplacements. Donc, on part chez les mamans, on les screen et on leur donne une sorte de ticket. Ils viennent au niveau du magasin pour être recontrôlés une deuxième fois. Et maintenant, on leur donne le supplémentaire Iplimpi. De façon globale, on peut dire que la situation est presque maîtrisée. C'est bon, avec surtout cette distribution qui s'est faite. On arrive à permettre aux enfants de maintenir l'équilibre. Et chaque fois qu'on trouve un enfant qui est malade, rapidement, il y a une vigilance, on l'envoie au niveau des centres de santé. La distribution sert de clinique mobile en même temps, au-delà de l'aspect distribution. C'est comme si on a un œil regardant par rapport aux enfants qui sont malades et on annonce l'information au niveau des autorités sanitaires.
Là, vous venez de faire le test, madame. Et comment le diagnostic, c'est? Il a quelle couleur?
Il est de couleur...
jeune. Ouais. C'est un enfant malnutri à risque modéré.
Et maintenant, vous allez donner quoi à la maman?
Donc, le supplémentaire, plein peanut pour un mois. Donc, chaque jour, elle a un à donner à l'enfant avec beaucoup d'eau. Donc, ce que j'ai expliqué à la maman, c'est surtout sur l'hygiène. Donc, avant de donner le supplémentaire plein peanut, elle n'a qu'à laver la main avec du savon ou le cendre. Donc, de mettre un peu d'eau et puis malaxer un peu et puis elle n'a qu'à laver les mains. L'enfant doit être bien propre. Comme ça, elle lui donne. S'il y a le restant, donc elle n'a qu'à mettre dans une tasse très propre, donc de couvrir ça.
Elles sont très jeunes, ces mamans.
Elles sont très jeunes. Donc elles se marient tôt. À l'âge de 12 ans, ils ont leur mari. Et à l'âge de 13 ans, ils ont un enfant.
La malnutrition dans cette région, certains disent que c'est une fatalité, qu'on ne réussira jamais à l'éradiquer.
Bon, en fait, c'est vrai, il faut noter que la malnutrition est un problème récurrent, mais c'est qu'un problème a toujours une solution. Ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qu'on peut résoudre.
Alors vous, si vous étiez responsable santé publique, quelles seraient les priorités?
En fait, les priorités, il faudrait orienter des stratégies très vastes basées sur les changements de comportement. Il faudrait aussi mettre l'accent sur les cultures, en fait, des terres. Il faut valoriser les terres, il faut diversifier les cultures aussi. Au-delà de travaux champêtres, il faut initier d'autres activités génératrices de revenus qui peuvent permettre aux populations d'être indépendantes, même quand la pluie n'a pas donné, bon, de s'adonner à d'autres activités. Parce que la plupart des cas, ce n'est pas primordialement la malnutrition. Les enfants tombent malades. Il y a toujours les maladies parce qu'ils ne sont pas vaccinés, parce que les mamans n'ont pas fait l'allaitement maternel exclusif. Du coup, l'organisme de l'enfant est fragile et la malnutrition s'installe. Cette stratégie de changement de comportement doit aussi prendre en compte impérativement les hommes pour qu'ils acceptent de laisser les femmes partir et consulter ou faire vacciner les enfants.
J'ai encouragé pour continuer dans le repas traditionnel. Elle peut les donner de la bouillie. Comme c'est le temps de récolte, il y a beaucoup de haricots, elle peut préparer ça, elle va continuer sur ses sens.
C'est une maman, l'enfant était dans le programme. Progressivement, c'est la troisième phase. Ça veut dire que l'enfant n'est plus dans le programme. Et elle était en train tout à l'heure d'expliquer que c'est un succès de la part de la maman. Il y a eu respect de tout ce qu'on a dit. Le message a très bien passé. Et elle a encouragé que c'est bon de ne pas voir son enfant malnutri quand même.
Prévenir pour mieux nourrir, c'était le reportage de 15 minutes de Nicolas Vultier, réalisé par Sylvain Michel. Un reportage réécouté ce soir, 22h40 sur les ondes de la première, ou tout temps sur www.rsr.ch. Voici la météo d'Éric Fauchère.
La matinée a connu des rayons de soleil de plus en plus nombreux en plaine, sur le bassin lémanique et le Tessin notamment. Cet après-midi, la tendance à l'ensoleillement de plus en plus vigoureux s'accentuera. Le Jura et les Préalpes connaîtront encore quelques flocons sous un ciel encore nuageux. Les températures maximales avoisineront les moins 4 à moins 1 degré, moins 13 à 2000 mètres. En montagne, un vent d'ouest soufflera modérément. Demain, le ciel s'annonce nuageux sur nos régions avec effet jour blanc à la montagne. Une perturbation s'amorcera et amène de faibles précipitations pour la soirée. La limite des chutes de neige oscillera entre 400 à 800 mètres. Au petit matin, les températures friseront les moins 4 à moins 9 degrés selon l'ennuagement. L'après-midi, on mesurera près de 2 degrés au maximum. Il faudra de plus compter sur une accentuation du vent du sud-ouest qui pourra souffler de manière tempétueuse à la montagne et fortement sur le nord plateau et la Joie. Dès lundi, le ciel sera nuageux avec quelques averses, mais les températures se feront nettement plus douces, indiquant des maxima de 4 degrés lundi jusqu'à 8 mercredi.
La météo, avec les prévisions géolocalisées à 5 jours de search.ch. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Il est précisément 13h.